notre conférencier de ce soir. Il s'agit donc de Jean-Paul Hatton, qui a été une des personnes consultées au moment où nous faisions le programme de l'Université de Tous les Savoirs. Il est né en 1943, est ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de l'université, docteur ès sciences. Sa carrière s'est essentiellement déroulée à Nancy-Lorraine, puisque depuis 1974, il est professeur à l'université Henri Poincaré de Nancy. Il a été directeur de recherche à l'INRIA, président du comité des projets de l'INRIA Lorraine. De 1990 à 1994, il est fondateur et premier président de l'Association française d'intelligence artificielle. Et il est toujours, en ce moment, son statut, c'est professeur à l'université d'Henri Poincaré de Nancy. Et il est responsable au sein de l'INRIA, Institut national de recherche en informatique et automatique, de l'équipe reconnaissance des formes et intelligence artificielle. Bon, comme vous vous en doutez, ses spécialités sont les aspects de l'informatique et de l'intelligence artificielle, l'étude des processus perceptifs et cognitifs dans leurs aspects théoriques et appliqués, les systèmes à base de connaissances, modèles stochastiques et neuromimétiques. Il est membre de nombreuses associations savantes et académies. Il est aussi, surtout, l'auteur de très nombreuses publications scientifiques, techniques, dans revues à comité de lecture, et membre du comité de rédaction de revues scientifiques internationales. Donc il va nous parler d'intelligence artificielle pendant 50 minutes, et ensuite il répondra à vos questions. Merci.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un grand honneur pour moi et un grand plaisir de donner cette conférence dans un lieu aussi prestigieux que le grand amphi du CNAM. Hier, vous avez entendu parler, enfin certains, ceux qui étaient là, ont entendu parler de vie artificielle. Nous allons aujourd'hui parler d'un autre artefact, qui est l'artefact de l'intelligence. Alors, je vais utiliser des moyens informatiques, la moindre des choses, pour faire cette conférence. Et en particulier, je vous montrerai un certain nombre de démonstrations qui viendront illustrer mon propos. Le plan que je vous propose de suivre est le suivant. Donc, nous allons essayer rapidement, parce que ça pourrait aussi prendre tout le temps de la conférence, de définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Puis nous aborderons les grands domaines d'activité de ce champ du savoir. J'essaierai de vous présenter l'ensemble de l'IA. Vous me permettrez de dire IA, on gagnera quelques secondes là, à chaque fois, selon les trois grands modèles qui sont utilisés actuellement par les chercheurs ou par les ingénieurs. Modèles de type symbolique, neuromimétique et statistique. Et ensuite, nous essaierons de donner quelques perspectives pour l'avenir. Donc, l'intelligence artificielle se propose d'émuler sur une machine des comportements qui sont réputés intelligents quand on les rencontre chez un animal supérieur ou chez l'homme. Comportement cognitif, comportement de prise de décision, de raisonnement, mais aussi comportement de perception. Perception visuelle, perception sonore, par exemple. Quels sont les grands domaines d'activité qui sont couverts par cette discipline? Eh bien, je les ai distingués là en 6 catégories, qui ne sont pas indépendantes, on pourrait trouver aussi une autre catégorisation, mais disons que celle-ci nous permet quand même de couvrir à peu près complètement le champ. Un premier domaine d'activité, c'est le domaine de la résolution de problèmes. Ces problèmes peuvent être complexes, longs à résoudre, et leur résolution nécessite de mettre en œuvre des techniques de prise en compte de connaissances, des stratégies de résolution, on reviendra sur ce mot de stratégie plusieurs fois, et en particulier, ces problèmes se caractérisent par le fait que, pour trouver leur solution, on ne peut pas faire une recherche exhaustive de toutes les solutions possibles. On est obligé de se comporter intelligemment, c'est-à-dire d'appliquer une stratégie, d'appliquer des tactiques de résolution. Un grand domaine de l'intelligence artificielle, pendant un certain temps, ça a été un domaine quasiment exclusif même, c'est le domaine des connaissances et des raisonnements, c'est-à-dire des mécanismes symboliques, cognitifs, qui s'appuient sur ces connaissances. J'aurai l'occasion de reparler de systèmes experts tout à l'heure. Un système expert est typiquement un système qui utilise des connaissances en menant un certain raisonnement pour parvenir à une certaine conclusion. Le troisième point est quelque chose de tout à fait central dans l'intelligence, de façon générale, et pas seulement dans l'intelligence artificielle, c'est le point de l'apprentissage. c'est-à-dire le fait de s'améliorer par l'exemple, de s'auto-améliorer au cours du temps, de tenir compte de ses erreurs et de ses échecs. Et un domaine assez proche de l'apprentissage, c'est le domaine de l'adaptation, le fait d'être capable de s'adapter à de nouvelles conditions de travail, à de nouvelles données, de nouvelles règles du jeu, sont des caractéristiques typiques de l'intelligence humaine et que l'on espérerait voir dans les systèmes d'intelligence artificielle. Ce n'est pas, c'est loin d'être le cas actuellement. On peut espérer qu'à l'avenir, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Un autre domaine d'activité de l'IA, c'est le domaine de la planification d'action. L'idée étant que pour mener une tâche assez complexe, il faut planifier les actions élémentaires qu'il faut mener à bien pour cela. Un domaine caractéristique, c'est le domaine de la robotique. Si vous voulez qu'un robot fasse une certaine tâche, ce robot va devoir planifier les actions élémentaires qui lui permettront de mener à bien cette tâche. Un autre champ bien circonscrit de l'intelligence artificielle et extrêmement actif, de plus en plus actif, on pourrait dire actuellement, c'est le champ du traitement de la langue naturelle, qu'elle soit écrite ou parlée. Et de façon un peu analogue, mais dans le domaine non plus de la langue, mais de l'image, un domaine important de l'IA, c'est le domaine de l'interprétation d'images et de la vision par ordinateur. Dans tous ces domaines, l'intelligence artificielle a pu mener à bien un certain nombre de projets qui ont mené à des réalisations tout à fait remarquables. J'en cite là quelques-unes, c'est certainement pas exhaustif, et on pourrait certainement en ajouter beaucoup, mais je pense que cette liste est quand même assez représentative de ce qu'est actuellement, de ce que sait faire actuellement l'intelligence artificielle. Le domaine des jeux a été longuement étudié par les chercheurs en IA, peut-être parce que les chercheurs sont un peu des grands-enfants qui aiment bien jouer. C'est certainement une des raisons. Une autre raison plus profonde est que si l'on veut bien jouer aux dames, aux échecs ou au go, il faut mettre en œuvre des mécanismes de résolution de problèmes, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, des mécanismes de stratégie qui vont... téléphone inévitablement. Technologie nouvelle, ça en fait partie également, bien sûr. Je parlerai tout à l'heure de reconnaissance de la parole. La reconnaissance de la parole se trouve maintenant dans les téléphones portables. Donc, ça fait le lien. Les jeux de dames, ou les jeux de taquins de ce type-là, sont des jeux dans lesquels il est quasiment impossible de gagner contre un ordinateur. En ce qui concerne le jeu d'échecs, vous avez certainement entendu parler d'un certain nombre de parties qui ont été jouées entre un grand joueur, notamment Kasparov, et un ordinateur, qui n'ont pas toutes été gagnées par l'être humain. Dans ce type d'activité, l'ordinateur ne fait pas seulement usage de sa force brute, comme disent les Américains, mais il met également en œuvre des connaissances, des stratégies de résolution très subtiles qui expliquent pourquoi les gens sont très intéressés à travailler sur ce domaine. Les stratégies de résolution que l'on met en œuvre dans des domaines tels que les jeux peuvent être ensuite réutilisées dans des systèmes d'aide à la décision pour des domaines de la vie économique. Le diagnostic a également donné lieu à des réalisations, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine spatial, dans le domaine industriel, plus généralement. Un sous-ensemble de ce domaine, c'est le domaine du raisonnement flou et du contrôle flou, qui permet de mettre en œuvre des représentations approximatives de la connaissance, on en parlera un petit peu tout à l'heure. L'aide à la décision est également un grand champ d'activité d'intelligence artificielle. Là, il s'agit d'aider un être humain, un décideur, à prendre la bonne décision au bon moment et sans tarder, que ce soit dans le domaine tertiaire, des banques, des assurances, dans le domaine secondaire de la conduite de procédés industriels ou dans le domaine militaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, le traitement de la langue est un domaine important de réalisation. On aura l'occasion tout à l'heure de reparler un peu de reconnaissance de la parole. J'aurai moins l'occasion de parler du traitement de la langue écrite par manque de temps, mais il faut bien dire aussi que c'est un domaine qui a fait d'énormes progrès depuis une cinquantaine d'années et qui donne lieu à des réalisations intéressantes. La lecture optique de caractères permet de la lecture de documents. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui sont équipés d'un ordinateur, un micro-ordinateur, lequel micro-ordinateur est lui-même équipé d'un scanner avec lecture optique. Ça devient presque banal dans un équipement d'ordinateur. L'interprétation de signaux, qu'ils soient monodimensionnels ou multidimensionnels, c'est le cas de la vision, évidemment, est également un domaine d'activité très, très fécond en intelligence artificielle. Quelles sont les grandes approches qui permettent de mettre en œuvre des systèmes d'intelligence artificielle? La première chose qu'il faut dire, c'est que quasiment dès le début de l'informatique, c'est-à-dire dès le début des années 50, 1950, c'est quand même une science très récente par rapport à celles qui ont été évoquées au cours de l'été et au cours du printemps. Donc, dès le début de l'informatique, les chercheurs et les ingénieurs se sont posé la question de savoir est-ce que cette machine nouvelle, qu'on appelle un ordinateur, pourrait éventuellement réaliser ce vieux rêve de l'être humain qui est de faire une machine à son image, c'est-à-dire une machine capable de raisonner, capable d'avoir des lueurs d'intelligence. Et pour aborder ce problème, on trouve deux grands types d'approches qu'un philosophe américain qui s'appelle Herbert Dreyfus a très bien, c'est pas pour faire plaisir à M. Michaud, je le dis, que c'est un philosophe qui a trouvé la bonne formulation, qui a très bien résumé en une phrase qui est d'une part « making a mind », on verra la deuxième phrase tout à l'heure, « making a mind », c'est-à-dire fabriquer un cerveau, le fabriquer comme on fabrique une automobile, on fabrique une machine. Et les tenants de cette approche sont des gens comme John McCarthy, Marvin Minsky, Alan Newell qui est décédé il y a quelques années, et qui correspond à ce que l'on appelle l'intelligence artificielle symbolique. Et une partie visible de cette intelligence artificielle symbolique, c'est ce que l'on appelle les systèmes à base de connaissances. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant. À côté de cette approche, qu'on pourrait appeler une approche mathématique ou logico-mathématique, s'est développée, et quasiment en même temps et en parallèle, de façon assez hermétique et étanche, une deuxième approche que l'on pourrait résumer sous le terme « modeling the brain ». Alors là, il ne s'agit plus de construire une machine à partir de rien, mais de s'inspirer de quelque chose qui existe, à savoir le cerveau humain, et de modéliser ce que l'on peut savoir du cerveau humain. Ici, on trouve des gens comme McCulloch et Pitts, ou Frank Rosenblatt, et on peut appeler ce domaine le domaine de l'intelligence artificielle connexionniste, dont la partie la plus visible est ce que l'on appelle, en termes courants, les réseaux neuronaux, sur lesquels on reviendra dans un instant également. Pendant presque un demi-siècle, ces deux domaines se sont développés de façon étanche, comme je le disais, et c'est seulement depuis une petite dizaine d'années que l'on voit apparaître une convergence entre les deux pour mettre en œuvre ce qu'on peut appeler des modèles hybrides qui font appel à la fois au fait, à l'approche symbolique et à l'approche connexionniste. Et on verra que pour construire des systèmes d'intelligence artificielle vraiment performants, on est amené également à faire appel à des méthodes qui nous permettent de modéliser la variabilité du monde réel, c'est-à-dire des méthodes statistiques. Voilà, si vous voulez, un panorama assez général du domaine. Et nous allons maintenant entrer dans le détail de chacune des grands modèles qui peuvent être utilisés. Je rappelle donc les modèles symboliques, les modèles neuronaux et les modèles statistiques. Alors commençons par le domaine de l'intelligence artificielle symbolique, dans lequel donc la problématique est de mettre en œuvre des connaissances, telles que celles que vous utilisez couramment, soit des connaissances de bon sens pour votre activité quotidienne, soit des connaissances spécialisées pour votre activité professionnelle, et d'exploiter ces connaissances dans des mécanismes qui sont des mécanismes de raisonnement. On obtient ce que l'on appelle un système à base de connaissances que l'on peut représenter par un tripode, si vous voulez, qui correspond à ces trois cercles-là. Donc, la base d'un système à base de connaissances, si je puis dire, ce sont les connaissances elles-mêmes, c'est-à-dire l'ensemble du savoir, du savoir-faire, des heuristiques, de l'expérience que l'on a pu accumuler sous forme de règles, on verra dans un instant, ou à des niveaux différents, par exemple à des niveaux de métaconnaissances. Ces connaissances sont exploitées par un interpréteur, un programme informatique d'interprétation que, dans le cas du système expert, on appelle un moteur d'inférence, qui permet de d'exploiter lesdites connaissances. Et les faits sont, en quelque sorte, l'exposé du problème que l'on pose à l'ordinateur. Le fondement de cette approche de l'IA, c'est de représenter le savoir dans certaines formes de logique. Pas forcément la logique mathématique de base, mais différents types de logique. Et un exemple de tel système, c'est ce que l'on a appelé le système expert à règle de production. Une règle de production étant un quantum de connaissances tel que celui que je vous propose là, dans le domaine du diagnostic de panne de voiture. Si on a un moteur qui a tendance à caler, et si l'allumage est correct, et s'il y a des sens dans le réservoir, alors la conclusion de ce quantum de connaissances, c'est qu'il faut vérifier la carburation. S'il y a un garagiste dans la salle, il va peut-être me dire que c'est un petit peu simpliste. C'est simplement un exemple. De nombreux systèmes ont été développés selon cette structure dans le domaine industriel. Je ne vais pas revenir trop dans les détails, je crois qu'on pourra revenir au cours des questions si vous le voulez. Dans le domaine tertiaire également, comme je le disais. Dans le domaine de la santé, j'aurai l'occasion de vous présenter tout à l'heure deux exemples dans ce domaine-là. Les militaires aussi, le domaine spatial aussi a donné lieu à un certain nombre de tels systèmes. Un premier exemple, simplement comme illustration, c'est un système qui a été développé dans le laboratoire Lauria, où je travaille à Nancy, avec le centre Alexis Vautrin, qui est le centre anticancéreux de Nancy. Le but de ce système CAV-CAV, c'est quelque chose qui a été développé il y a une dizaine d'années, c'était d'aider à l'établissement d'une thérapie dans le domaine d'un cancer assez rare, qui est le cancer du cavum. Donc l'idée est de permettre aux médecins d'avoir une aide pour définir, d'une part, la thérapie à appliquer aux malades, et d'autre part, à définir, pour la radiothérapie, définir les caches qu'il faut mettre sur le malade pour que les organes sensibles ne soient pas atteints. Vous voyez ici, donc le cavum est quelque chose qui se situe derrière les fosses nasales, je peux dire, et on est amené à définir un certain nombre de caches en plomb, telles qu'indiquées ici, qui permettent de protéger les organes sensibles lorsque le patient sera irradié avec des rayons radioactifs. Voilà, sur la vue de côté, les caches également qu'il faut établir de façon à détruire la tumeur sans atteindre les organes. Et l'idée est d'avoir plusieurs faisceaux que l'on fait converger vers la tumeur de façon à ce que, à l'endroit de la convergence, il y ait une intensité suffisante sans que l'intensité soit trop importante ailleurs. Ce système a vécu sa vie et actuellement, il est connecté au système d'imagerie qu'utilisent les médecins. Autre système, c'est un système que nous avons développé, ou que nous sommes en train de développer avec le département d'anesthésie réanimation du CHRU de Nancy. Et là, l'idée est d'utiliser l'intelligence artificielle comme une aide aux médecins anesthésistes pour l'aider à suivre l'évolution du patient qu'il a endormi. J'utilise un terme un peu technique là, qui est en fusionnant les différentes informations sur le patient, que ce soit son pouls, sa pression artérielle, son électroencéphalogramme, etc. Je vais vous montrer très rapidement en quoi consiste ce système. Au cours d'une opération, vous voyez ici l'ensemble des signaux qui sont enregistré sur le patient. Et bon, là, on a l'ensemble de l'opération qui dure 3 heures. Bon, on peut évidemment avoir une définition un peu plus faible. Ici, on a simplement quelques minutes d'enregistrement. Et en fonction de l'évolution de ces différents paramètres, notamment de ce paramètre en jaune ici, qui est ce que l'on appelle l'indice bispectral, qui donne une information assez bonne sur l'état d'endormissement du patient. En fusionnant ces différentes informations, le système, comme le médecin anesthésiste, est capable de prévenir le réveil du malade, du patient, de façon intempestive. Il y a véritablement un raisonnement de fusion de ces différentes informations permettant d'alerter le médecin, de l'aider à prendre une décision. Il ne s'agit pas de remplacer le médecin, rassurez-vous, il s'agit simplement de faire en sorte que comme dans la plupart des exemples que je vous montre, l'être humain fasse mieux son travail, qu'il utilise de façon plus intelligente l'outil informatique. Un autre domaine assez utilisé en termes d'intelligence artificielle, c'est le domaine de la conduite de procédés industriels. Alors, c'est un domaine assez complexe dans lequel on a un certain nombre de données concernant un processus, par exemple un haut fourneau, une aciérie, une cimenterie, tout processus de fabrication, si vous voulez. À partir de ces données, on va être amené à interpréter l'état courant du processus. Est-ce que les choses sont en nominal ou est-ce qu'il se passe un phénomène qui ne va pas ? À partir de cette interprétation, on va élaborer un diagnostic et ce diagnostic va permettre de définir une action à faire, à produire sur le procédé lui-même. C'est la façon dont un être humain s'y prend pour faire, dont un opérateur s'y prend pour gérer un procédé industriel. C'est la façon dont un système expert d'aide à la gestion d'un processus peut le faire. Alors, un exemple pour fixer simplement les idées, c'est l'exemple du système SACHEM, qui est un système d'aide à la conduite de hauts fourneaux, qui a été développé par la société Solac. Dans ce système, qui est représenté ici, les choses se passent de la façon suivante. Vous avez en représenté ici en petit le haut fourneau, il ne faut pas oublier que c'est nettement plus gros que sur ce schéma. Le haut fourneau est un système très complexe, de très grande taille, et qui est extrêmement finement instrumenté, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'informations qui sont collectées en permanence et qui permettent de savoir quel est l'état du haut fourneau. À partir de ce processus d'acquisition des données sur le haut fourneau, de température, de pression, etc., on va élaborer un certain nombre de grandeurs qui vont permettre de savoir quel est l'état du processus. Est-ce que la physico-chimie du haut fourneau se passe bien ou est-ce qu'il y a des phénomènes anormaux ? En fonction de ces grandeurs qui sont élaborées, on va mettre en œuvre des mécanismes de reconnaissance des formes et d'intelligence artificielle qui vont nous permettre d'émettre des alarmes, de dire attention, le haut fourneau est dans tel état et il se pourrait que cet état s'aggrave. En plus de cela, non seulement le système peut alerter l'opérateur, mais il va en même temps lui recommander l'action qu'il faudrait faire pour que le haut fourneau revienne dans un état normal. Une interface entre l'opérateur et le système permet au système de suggérer cette action. Bien entendu, le système n'est pas bouclé sur le processus, c'est-à-dire c'est l'opérateur humain qui prend ou non la décision de prendre en compte la recommandation qui lui a été donnée par le système. En aucun cas, l'être humain n'est exclu de la boucle, du moins pour l'instant. Ça, c'est une petite vue de ce qu'est l'interface de l'opérateur, c'est-à-dire le post-opérateur. Ces schémas ont été tirés d'un CD qui a été fait par Usinor Solac pour la description de ce système. Voyons, pour terminer ce domaine, un autre aspect de l'intelligence à base de connaissances, si je puis dire, c'est ce que je vous propose d'appeler l'intelligence collective. Dans ce cas, l'idée est de faire émerger un comportement intelligent par coopération ou concurrence entre un ensemble d'entités ayant leur propre autonomie et faisant leur propre travail, que j'appelle agents. Alors, ces agents peuvent être des agents dotés d'une capacité cognitive, dotés de connaissances, de mécanismes de raisonnement. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle les systèmes multi-agents, qui sont largement étudiés actuellement. On les voit dans des domaines extrêmement variés, par exemple l'interprétation d'images, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Bon, je vais passer, je pense, sur ce domaine, parce qu'on n'aura pas le temps de le voir en détail, donc je préfère passer à la suite. Donc ça, c'est le premier type de système dans lequel l'intelligence émerge d'un comportement collectif. C'est le cas où chacun des agents qui composent le système multi-agent est lui-même doté d'intelligence. Mais un autre exemple intéressant est l'exemple où les agents sont des systèmes de comportement purement réactif, c'est-à-dire à un stimulus sera associée une action. et l'action peut être extrêmement alimentaire, extrêmement rudimentaire. Dans ce cas, l'intelligence qui émerge du système est simplement liée à la pertinence des échanges entre les agents. Chaque agent est strictement incapable de quelque comportement intelligent que ce soit, et c'est seulement l'interaction qui va produire des systèmes intelligents. Un exemple de modèle, il y en a d'autres, hein. Un exemple de modèle, c'est ce que l'on appelle la stigmergie, qui a été proposée par un chercheur qui s'appelle Pierre-Paul Grasset dans les années 50. Là, le modèle proposé par Grasset suppose que les échanges entre les agents se font via l'environnement de ces agents. Grasset disait le travail pilote l'ouvrier. Et les exemples typiques de ce fonctionnement se trouvent dans les insectes sociaux. Par exemple, la construction du nid de termites obéit à ses lois. Chaque termite n'a strictement aucune intelligence et néanmoins, vous obtenez une construction remarquable. L'établissement de chemins vers la nourriture chez les fourmis peut également être modélisé de cette façon-là. Un autre exemple, c'est l'exemple des araignées sociales, c'est-à-dire des araignées qui vivent en bande, qui peuvent être assez importantes, et qui construisent de façon collective des toiles. Je voudrais vous montrer en quelques mots cet exemple qui a été développé toujours au Lauria à Nancy avec le professeur Bertrand Kraft, qui est un spécialiste de physiologie du comportement des animaux, et avec François Charpillet et Vincent Chevrier et Christine Bourgeot dans le laboratoire Lauria. Alors le plus simple est que je vous montre un petit peu à quoi correspond ce système. Donc l'idée est de simuler la fabrication d'une toile d'araignée chez ces araignées sociales qui vivent en Guyane, de simuler ça par un système multi-agent dans lequel l'interaction entre les agents se fait par stigmergie. Là, on va supposer qu'on a une colonie de 5 araignées et on va lancer donc la simulation qui va nous permettre de montrer comment les araignées construisent leur toile. Pour cette simulation, on suppose que les araignées disposent d'un certain nombre de supports, ça sera des arbres, des buissons, et à partir de ces supports, en utilisant ces supports, elles vont construire la toile d'araignée qui va leur permettre de faire, la capture des proies. Donc, vous avez ici la toile qui a été construite par cet ensemble. On voit bien que ça a tout à fait une allure de toile d'araignée. Regardez là, par exemple. Hein, donc on peut la faire tourner un petit peu. Les petits traits que vous voyez sont les pieux qui ont servi d'ancrage à la toile d'araignée. Et vous voyez qu'en prenant 5 araignées, on n'obtient pas 5 petites toiles séparées, on obtient une grande toile qui va permettre à l'ensemble de la colonie de faire ses captures de mouches. Donc il y a effectivement eu un travail collectif dans lequel la communication entre les araignées ne se fait que via l'environnement, c'est-à-dire via le début de toile déjà construite. Voilà pour les modèles de type symbolique. Nous allons passer maintenant au deuxième type de modèle permettant de développer des systèmes multi-agents, des systèmes intelligents, j'étais encore resté dans le sous-paragraphe précédent, qui sont les modèles connexionnistes, ce que j'ai appelé les modèles connexionnistes tout à l'heure, ou réseaux neuronaux. Dans ce cas, pour rappeler le philosophe Herbert Dreyfus, il s'agit de modéliser, dans une certaine mesure, le cerveau, ou du moins de s'inspirer plus ou moins de le fonctionnement du cerveau. Les systèmes développés dans cette catégorie depuis, disons, au moins une vingtaine d'années, sinon plus, sont quasiment tous fondés sur un modèle élémentaire du neurone qui a été développé sous forme électronique dans les années 1940 par McCulloch et Pitts, sous forme d'un automate tel que celui qui est présenté ici. Donc cet automate s'inspire en quelque sorte du fonctionnement du neurone humain. Vous avez ici donc cet automate qui reçoit un certain nombre de stimuli en entrée Chacun de ces Y, I, J, là, sont des stimuli. Chaque entrée de stimulus a une force, qui est représentée ici par un poids, WI. Par exemple, l'entrée numéro J a un poids, WIJ. Le neurone fait la somme de ces stimuli, pondérés par les forces, et en fonction de l'horaire de cette somme, il va prendre la décision de s'exciter ou non lui-même. Mais le comportement de chaque neurone est extrêmement rudimentaire. C'est simplement une décision liée à l'état de ses entrées, l'état des signaux qu'il reçoit en entrée. Donc ceci est une bonne approximation du fonctionnement du neurone animal, mais il est bien évident qu'en aucun cas le fait de mettre ensemble des neurones de ce type peut être une modélisation valable du cerveau humain. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne s'agit que d'une inspiration qui a permis de faire ces systèmes neuromimétiques. En aucun cas, les personnes qui développent ces systèmes neuromimétiques ne prétendent avoir fait une modélisation du cerveau. Il s'agit bien d'une inspiration. Mais cette seule inspiration permet d'arriver à des résultats extrêmement intéressants, comme on va le voir dans un instant. Donc, l'idée est, à partir de cette cellule qui est le neurone et des connexions via les dendrites, de faire un système multi-neurones qui sont ce que l'on appelle donc les réseaux neuronaux. Donc, on a une inspiration neurobiologique. L'architecture de tel système est très simple. C'est une architecture dans laquelle l'information va se propager de couche en couche de neurones, les neurones étant interconnectés entre eux de façon très forte. Dans le cerveau, on sait qu'un neurone peut être connecté quelquefois à plusieurs milliers d'autres neurones. Dans les systèmes automatiques, on en est à un peu moins, mais l'idée est la même. C'est-à-dire que vous avez une forte interconnexion entre les neurones et l'influx nerveux, en quelque sorte, se propage régulièrement. Voilà ici un système neuronal très simple avec simplement trois couches de neurones, une couche d'entrée de côté gauche et une sortie, la sortie étant une fonction de l'entrée. Et le fonctionnement consiste simplement à avoir une propagation de l'influx nerveux, en quelque sorte, du stimuli qui sont en bleu là, sur la couche d'entrée, qui vont se propager sur la deuxième couche, puis qui vont résulter en une valeur de la sortie f de x. Progressivement, l'information, les stimuli, ont progressé au sein du système. Le système est forcément parallèle, comme vous pouvez le voir, puisque chacun de ces ronds qui représentent un neurone fonctionne indépendamment des autres. Le point clé de tel système et l'intérêt fondamental de tel système est qu'ils sont capables d'apprendre à partir d'exemples. On revient sur le problème central de l'apprentissage dans l'intelligence. Donc, les réseaux neuromimétiques ou réseaux neuronaux sont des systèmes qui sont capables, lorsque leur présentez des exemples bien choisis d'un certain phénomène, d'apprendre les bons comportements correspondant à ce phénomène. L'exemple le plus courant et le plus couramment utilisé de tel système, c'est ce qu'on appelle le perceptron multicouche, qui est celui que je vous ai montré, qu'on va revoir dans un instant. Dans ce système, l'apprentissage se fait à partir d'exemples présentés au perceptron. On impose au système d'avoir une certaine réponse, donc on lui dit ce qu'il faut qu'il trouve, en quelque sorte, et la correction se fait par propagation arrière, rétropropagation, depuis la sortie vers les couches de différentes couches de neurones. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on va infliger au système une correction qui va être en quelque sorte proportionnelle, disons liée à l'erreur qu'il aura commise dans son traitement. S'il ne commet aucune erreur, eh bien on ne changera rien. S'il fait beaucoup d'erreurs, eh bien on va l'obliger à changer beaucoup de choses dans ses interconnexions entre les neurones. Voilà le principe de base de ces systèmes neuromimétiques qui sont utilisés dans un nombre considérable de domaines et avec un point très important que je note à la fin, qui est que une fois que cet apprentissage est fait, il peut être assez long, mais ce n'est pas très impétant, une fois que cet apprentissage est terminé, le système a acquis non seulement la capacité de bien se comporter par rapport aux exemples qu'on lui a présentés, mais il a également la capacité de généraliser et donc d'inventer un comportement devant des exemples qu'il n'a pas rencontrés. Quels sont les domaines d'application ? Il y en a beaucoup, on va les passer assez rapidement. Un premier domaine, c'est le domaine de la reconnaissance de formes et de la classification de données. C'est peut-être un des domaines les plus utilisés. Je parlais tout à l'heure de lecture optique de caractère. Les réseaux neuronaux sont largement utilisés dans ce domaine. Je passe là-dessus. Un autre domaine important, c'est le domaine de l'approximation. Si vous avez une certaine fonction, telle que celle qui est indiquée ici, en très régulier, là, hein, un réseau neuronal est capable d'approximer cette fonction. Il est capable également de la sur-approximer, en quelque sorte. C'est-à-dire, si vous lui donnez trop de données d'apprentissage, eh bien, il va avoir tendance à, finalement, vouloir trop bien faire, en quelque sorte, et ne pas faire exactement le travail qu'on attend de lui. Le domaine de la prédiction et de la prévision est également un domaine que l'on peut traiter par des méthodes neuronales. Supposez par exemple que l'on est dans le domaine boursier, au cours du temps, l'évolution d'une valeur qui prend cette forme-là. Le problème est de savoir, compte tenu de l'évolution depuis le temps T1 jusqu'au temps TN, quelle va être la valeur de cette action au temps TN plus 1. Vous me direz que si ce problème était résolu, il y aurait un certain nombre de chercheurs qui seraient riches, comme les chercheurs n'ont pas tendance à être très riches, c'est qu'il n'est pas encore complètement résolu. Mais on est sur la bonne voie. L'optimisation est également un domaine qui a été beaucoup étudié par les chercheurs en réseaux neuronaux, et pas seulement ceux-là, les chercheurs en mathématiques aussi. L'optimisation est un des grands domaines de la recherche opérationnelle en mathématiques. Par exemple, problème typique, presque problème d'école, je dirais, le problème du voyageur de commerce qui part d'une certaine ville A le matin, qui doit visiter un certain nombre de villes B, C, D, E, ou d'un certain nombre de clients dans une ville, et revenir chez lui le soir. Quel est le meilleur itinéraire pour visiter ses différents clients, compte tenu du fait qu'il y a une grève des routiers, qu'il n'y a plus beaucoup d'essence, ou qu'il y a un certain nombre d'autres contraintes qui peuvent intervenir. Ce problème d'optimisation sous contrainte peut être résolu par différentes façons, mais notamment par des réseaux neuronaux. Autre exemple, l'exemple de mémoire associative, c'est un peu le même type, je passe là-dessus. Autre exemple également, c'est le domaine de la conduite de procédés industriels, ou du réglage de procédés industriels. Un exemple que je pris, non pas tout à fait au hasard, parce que c'est un problème qu'on avait traité à Nancy avec la société Solac. Le problème est de régler la force de tension d'un laminoir. Bon, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne un laminoir. Vous avez des rouleaux et vous avez une plaque d'acier qui passe entre ces rouleaux, l'idée étant de l'amincir par le passage dans le laminoir. Pour que ce laminoir fonctionne bien, il faut exercer une force de traction sur la tôle, il faut la tirer, et la détermination de cette force de traction est une activité extrêmement difficile et très cruciale. Si vous tirez trop vite, vous risquez de casser la tôle, si vous ne tirez pas assez vite, ça ne marche pas. Donc la détermination de la valeur de cette force peut être faite par un perceptron, et c'est un travail qui a été fait à Nancy, notamment par Frédéric Alexandre dans mon laboratoire, et qui a donné lieu à un brevet. L'idée est toujours la même, vous avez une couche de neurones d'entrée, une deuxième couche, une troisième, et une couche de sortie, qui nous permet d'avoir la réponse, c'est-à-dire la force qu'il faut exercer. En entrée, on a un certain nombre de paramètres qui sont caractéristiques du système que l'on étudie. Autre exemple, traité toujours dans le laboratoire Lauria à Nancy, avec France Télécom, c'est l'optimisation de la couverture des cellules de téléphone portable, téléphonie mobile, par prédiction de l'atténuation du champ électrique. Le problème qui se pose dans ce domaine est que la propagation du champ dépend fortement de l'environnement. Vous avez pu constater que votre téléphone portable ne marchait pas aussi bien partout. S'il y a des immeubles, s'il y a des montagnes, on peut avoir des problèmes par le fait que le champ radioélectrique est trop atténué. Pour pallier cet inconvénient majeur, les opérateurs de téléphonie veulent optimiser l'implantation de leurs réémetteurs et de leurs antennes. Pour cela, il faut avoir une idée très, très précise de la conformation du terrain Et à Nancy, nous avons fait un système neuronal qui est capable d'apprendre à partir d'un modèle numérique d'un terrain. Là, en l'occurrence, ça sera la région d'Annecy. Pas Nancy, mais Annecy. C'est plus intéressant parce qu'il y a des montagnes. À partir d'un modèle numérique d'un terrain, le système est capable de déterminer par lui-même, d'apprendre par lui-même les différentes catégories de conformation de terrain, de la montagne, de la colline, de la ville, de l'eau. Et de ce fait, un opérateur de téléphone, ensuite, va avoir une information complémentaire pour bien implanter ces relais émetteurs. Voilà, donc ici, un exemple de la région d'Annecy. Ce que je vous montre là, c'est le résultat du système neuronal à partir du modèle du terrain qu'on lui a donné. Donc, à partir de ce modèle, il est capable de reconstruire en trois dimensions la région correspondant. Encore une fois, comme je vous disais, c'est la région d'Annecy. Vous ne l'avez pas encore reconnue, là, mais même si vous connaissez peu, ici, vous allez voir, vous le voyez bien, hein, on voit très bien le... Vous êtes recommencé, si vous voulez, ce sera plus facile. On va essayer de s'arrêter au bon endroit. Donc là, le système a appris de lui-même les différents types de conformations. Je vais l'arrêter là, par exemple. Donc on voit bien ici les montagnes, on voit le lac d'Annecy, la ville qui est là. On voit le lac du Bourget aussi, ici, et des champs, des vergers. Cette information ne lui a pas été donnée, c'est de lui-même qu'il a déterminé ces différentes catégories de terrain. Voilà pour les réseaux neuronaux. Bon, je suis désolé d'aller un peu vite, mais je pense qu'il faut qu'on puisse envisager les différents types de modèles. Le troisième type de modèle dont je vais vous parler, ce sont les modèles statistiques. Pourquoi utiliser des modèles statistiques dans le domaine de l'intelligence artificielle? Je l'avais évoqué au début de la conférence. Ce que veulent faire les chercheurs et les ingénieurs en intelligence artificielle, c'est de concevoir des systèmes qui sont capables d'avoir des comportements un peu intelligents dans des situations réelles. Or, une caractéristique de la réalité, de la vie réelle, c'est sa très grande variabilité. Et il existe un outil mathématique qui permet de rendre compte, de modéliser la variabilité des phénomènes, ce sont les outils statistiques. En fait, nous allons surtout parler d'outils stochastiques. Stochastique, ça veut dire statistique plus le temps, plus évolution au cours du temps. Donc le principe, c'est de modéliser la variabilité naturelle de la vie, en quelque sorte. Parmi tous les modèles statistiques, un modèle qui a eu beaucoup de succès, notamment dans le domaine de la reconnaissance des formes, qu'on va le voir dans un instant, ce sont les modèles markoviens. Que ce soit les modèles de Markov cachés ou d'autres modèles plus compliqués, dont je donne les noms là, les processus de décision markoviens et autres. Ici encore, comme dans le cas des réseaux neuronaux, le principe est de mettre au point un système au cours d'une phase préalable d'apprentissage. Apprentissage qui consiste à présenter à un système des exemples. Alors dans ce cas, contrairement à tout à l'heure où l'apprentissage consistait à régler des poids de neurones, des interactions entre les neurones, ici, l'apprentissage va consister à apprendre des lois de distribution de probabilité. Donc la réponse d'un système d'intelligence artificielle fondé sur la statistique est une réponse probabiliste et non pas une réponse sûre. Les applications sont nombreuses et variées, j'en cite quelques-unes ici. Le domaine de la reconnaissance des formes. Je vais vous montrer un exemple dans le domaine de la parole. Le domaine de l'interprétation de signaux également. Je peux vous montrer tout de suite, d'ailleurs, un système qui a été réalisé toujours à Nancy sur ce domaine. Oh non, je vous le montrerai tout à l'heure. Ouais. Plutôt passer tout de suite à la parole. Pour commencer, je vais vous montrer le principe de ces systèmes dans le cadre de la reconnaissance de la parole, parce que c'est certainement le domaine dans lequel les modèles stochastiques ont eu le plus grand succès. Le principe est simple. À partir du signal vocal émis par un locuteur, le système va procéder à une analyse du signal vocal, que l'on peut par exemple représenter tel que sur ce transparent-là. Là, j'ai prononcé simplement une suite de chiffres. On peut faire réécouter, si vous voulez. Non, c'est un peu faible, on n'entendra pas. Peu importe. Donc, à partir du signal vocal qui est indiqué en rouge ici, comme vous voyez, qui est donc le signal capté par un microphone et numérisé, on va mener une analyse fréquentielle de ce signal de façon à obtenir un spectrogramme qui est cette représentation tridimensionnelle avec le temps sur l'axe horizontal, la fréquence en axe vertical, et puis un orcissement plus ou moins grand qui correspond à une énergie plus ou moins grande dans telle ou telle fréquence. Bon, cette représentation spectrographique est très courante dans de nombreux domaines de traitement du signal. Dans le cas de la parole, c'est disons, ce matériau qui va être utilisé comme entrée d'un système automatique. Donc, après cette analyse du signal vocal, donc, qui consiste à produire un spectrogramme à partir de ce que dit une personne, on va mener à bien une comparaison de formes, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver quelle est l'entité, phrase, mot, unité phonétique qui a été prononcée par le locuteur. Selon les cas, l'unité sera soit un mot, soit une phrase, soit une unité phonétique, ça dépend du choix de conception que fait le concepteur du système. Et la reconnaissance va consister à trouver quelle est l'unité qui a été prononcée par le locuteur. Le principe est donc de modéliser cela sous forme stochastique. Je vais vous le montrer sur un système particulier. Qui est indiqué ici. Donc, ce système est un système de reconnaissance de chiffres. Il n'y a rien d'extraordinaire, maintenant ça devient banal. Vous avez sans doute presque tous un téléphone portable, et certains d'entre vous ont un téléphone portable auquel on peut dicter un numéro de téléphone ou le nom d'une personne après apprentissage. Donc ce système en question est un système de reconnaissance des 10 chiffres. Le but n'est pas de vous prouver qu'on sait reconnaître les 10 chiffres, mais simplement de faire un exemple. C'est un système de reconnaissance des chiffres anglais. Je suis désolé, j'aurais pu prendre un système en français, mais il est trop tard, donc je ne peux plus reculer. 4. Donc le mot reconnu s'affiche ici. Vous allez me dire, ça peut être préparé. Vous voulez que je prononce un autre chiffre? Non. Bon, donc, le problème n'est pas de vous prouver que je sais reconnaître la parole, ça fait 30 ans que je travaille sur le sujet, mais d'essayer de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Donc on va voir maintenant, on va essayer de voir comment fonctionne ce système. Donc ce système est un système stochastique, comme je l'ai dit, à base de modèles de Markov. Chaque entité qu'il connaît, ce système, il connaît 10 mots, hein, de 0 à 9, chaque entité est représentée par un modèle de Markov. Ce modèle de Markov a été appris à partir d'exemples. On lui a prononcé, on a présenté au système énormément d'exemples de 0, de 1, de 2, etc. Et à partir de ces exemples, le système va déterminer des densités de probabilité qui vont lui permettre de trouver quelle est la meilleure réponse possible à un mot qui a été prononcé. Donc j'ai prononcé le mot 4 en anglais, et le système va essayer de voir quel est, parmi ces 10 modèles, de 0 à 9, quel est celui qui a la plus grande probabilité d'être le mot que j'ai prononcé. Ça vient de probabilité, c'est-à-dire que la réponse n'est que probabiliste. Et ici, donc on va commencer la comparaison. Donc là, le système va comparer, je vais l'arrêter tout de suite, voilà. Donc, vous avez sous vos yeux, ici, la représentation du modèle de Markov d'un des mots du vocabulaire. En l'occurrence, c'est le mot 4, parce que je lui ai demandé de faire la comparaison entre le mot que j'avais prononcé et la réponse qu'il a donnée, qui était la bonne, notamment. Chacun des états de ce modèle de Markov, qui est un automate, hein, que l'on parcourt état par état, chacun de ces états stocke des probabilités. Là, en l'occurrence, vous les voyez en dimension 2. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On voit des formes sous forme de chapeau. qui sont des fonctions gaussiennes. Alors, vous avez peut-être subi des cours de statistique quand vous étiez étudiant. On vous a parlé de fonctions gaussiennes. Là, enfin, vous voyez des gaussiennes. C'est quand même mieux que de les voir sous forme d'équation. Ici, elles sont en dimension 2. En fait, dans nos systèmes, elles sont en dimension 20 ou 30, mais l'être humain a une grande difficulté à représenter des espaces au-delà de 2 ou 3. Donc, je me suis contenté de prendre deux variables. Ici, vous avez un petit point vert qui vous indique l'état dans lequel on se trouve. Donc, on va parcourir chacun de ces modèles et le petit point vert se déplace au fur et à mesure de la comparaison du mot que j'ai prononcé au modèle correspondant. Donc ça, c'était le modèle du 4. En fait, le système a fait le même travail pour tous les modèles depuis 0 jusqu'à 9. Le parcours d'un modèle lui permet de trouver une probabilité qu'a ce modèle d'être le mot que j'ai prononcé, et la réponse qu'il a donnée est la réponse qui avait la plus grande probabilité de ressembler, d'être ce que j'ai prononcé. Donc, vous voyez, ce qui est important de comprendre, c'est que ces réponses sont purement probabilistes. Et ces systèmes stochastiques sont des systèmes qui sont largement utilisés. Toutes les machines de reconnaissance de la parole qui existent actuellement, quasiment, sont de ce type. Voici quatre types d'applications possibles. Les machines à dictée, peut-être certains d'entre vous en utilisent dans leur vie professionnelle, non ? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent, là, des gens qui utilisent les machines à dictée ? Oh, oui, il y en a, j'étais sûr. Que, statistiquement, oui, il devait y en avoir. J'espère que vous en êtes content, sinon... Non, il n'en est pas content. Ça veut dire que vous n'avez pas fait un apprentissage suffisant. Puisque... Donc maintenant, vous allez passer beaucoup de temps. Hein. Quand je dis beaucoup de temps, ça peut être des heures. Hein. Pour ajuster les densités de probabilité qui vont permettre d'avoir une bonne réponse, il faut que le système ait entendu, en quelque sorte, beaucoup de données. Les téléphones sont des commandes de machines particulières, utilisent aussi ça. On verra de plus en plus aussi les systèmes de télématique vocale qui permettent d'accéder à des services via le téléphone de façon purement vocale, sans intervention d'opérateur. Bien sûr, ces systèmes sont encore très limités, notamment sur le fait qu'ils manquent de robustesse. Dès qu'il y a un bruit parasite qui se présente, les performances chutent. Ce sont des systèmes également qui sont à vocabulaire fermé, c'est-à-dire qu'ils connaissent un certain vocabulaire, et ils ont une grande difficulté à se rendre compte que vous avez prononcé un mot qu'ils n'auraient pas connu. Donc, il va avoir une forte propension à prendre ce mot inconnu pour un des mots qu'ils connaissent. Et autre limitation encore plus forte, c'est la limitation de paroles spontanées. C'est-à-dire que ces systèmes sont parfaitement incapables de comprendre une conversation spontanée telle qu'elle se passe entre deux êtres humains, avec toutes les anaphores, toutes les métaphores qu'il peut y avoir, toutes les allusions à un contexte, connaissance de bon sens, etc., qui peuvent intervenir. Je pense qu'il est temps de passer à la conclusion, si on veut rester dans les temps en question. On est à 49 minutes. Que peut-on dire sur le domaine de l'IA ? La première chose qui me paraît importante de dire, c'est que l'intelligence artificielle a permis d'étendre le champ initialement prévu de l'informatique. Un ordinateur, c'est une machine qui est capable de faire du calcul scientifique de façon très performante. C'est également une machine capable de faire de la facturation, de gérer des listes de personnes de façon très efficace. L'intelligence artificielle a permis d'aller au-delà de ce champ d'activité et elle a permis de mettre au service de l'homme, je tiens beaucoup au terme « mise au service de l'homme », de la puissance de la machine et de faire cette mise au service de façon intelligente. Soit pour résoudre des problèmes qui sont longs ou compliqués, bon, l'exemple des jeux en est un, mais le diagnostic en est un autre, soit pour faire partager un savoir et une expérience, à partir de ce que les experts peuvent savoir, soit pour faciliter une communication. La communication entre un être humain et une machine, la communication entre un être humain et un autre être humain, bénéficie largement de l'intelligence artificielle dans de nombreux domaines. Ça peut être le domaine des handicaps, des machines à lire pour malvoyants, des machines qui aident un sourd ou un malentendant à comprendre ce qu'on lui dit ou à apprendre à parler, des machines qui permettent à un handicapé moteur d'agir sur son environnement à distance, par la reconnaissance vocale, par exemple, tout cela participe à cette catégorie. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'intelligence artificielle, en l'an 2000, est entrée dans la vie économique. Il existe des systèmes, je pense vous en avoir donné un certain nombre d'exemples, qui sont, même s'ils ne sont quelquefois que des maquettes, qui sont capables de résoudre de vrais problèmes dans des vraies conditions, et non plus dans des conditions d'école. Mais les réalisations actuelles sont encore extrêmement limitées. La robustesse n'est pas au rendez-vous, les systèmes ne sont pas capables de traiter l'ensemble de la réalité, et pour cela, j'allais dire presque fort heureusement, la recherche continue sur des domaines tels que ce qu'est la connaissance, quel est le sens qu'il faut donner à la connaissance, qu'est-ce que l'apprentissage, comment mettre en œuvre des mécanismes d'apprentissage vraiment efficaces, etc., etc. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère.
Je désirerais savoir ce qu'on entend par chaînage arrière dans le fonctionnement du moteur d'inférence et quels sont les critères de choix entre le chaînage avant ou le chaînage arrière.
Ah, j'ai un très bel exemple à vous montrer là, mais il nous prendrait un peu de temps, qui est un système de détermination de la nature d'un vin. Il se trouve que je suis un œnologue amateur, mais convaincu. Je peux vous répondre en quelques mots. Donc, la question de monsieur tourne autour des systèmes à base de règles de production. Je rappelle la règle de production que je vous ai montrée. Si le moteur cale, et s'il y a des sens, je ne sais plus quoi d'ailleurs, et si l'allumage, il faut soupçonner qu'il y a un problème de carburation. Une telle règle peut être utilisée de deux façons différentes. Ou bien, disons de la gauche vers la droite, hein, si les conditions sont bien vérifiées, alors on peut en déduire que la conclusion devient valide. D'accord ? Si le moteur a telle et telle caractéristique, alors soupçonnez ceci. Si le patient a présente tel et tel symptôme, alors on peut soupçonner cela. Ça, c'est ce qu'on appellera du chaînage avant, parce que la règle est utilisée dans le sens où on peut la lire. Mais il y a fondamentalement une deuxième façon d'utiliser une telle règle, une telle connaissance, c'est de dire, si l'on veut prouver que la conclusion est vraie, alors il suffit de prouver que les prémices, que la partie condition de la règle est vraie. Et ça, on appelle ça du chaînage arrière, parce qu'on lit en quelque sorte en marche arrière la règle de production. Alors, la deuxième partie de la question est encore plus intéressante. Dans quel cas utiliser un chaînage plutôt que l'autre? Eh bien, je dirais que les moteurs modernes utilisent les deux. Le chaînage avant, c'est un chaînage, c'est un raisonnement. N'oubliez pas que ces systèmes sont des systèmes qui raisonnent, hein, en logique. Le chaînage avant, c'est un raisonnement qui est guidé par des données. On a un certain nombre d'informations sur le moteur, un certain nombre d'informations sur le patient, sur l'état du marché boursier, et en fonction de ces informations, on va essayer de prendre une décision. Un raisonnement guidé par les données. Donc si on a beaucoup de données, beaucoup d'informations, on a intérêt à faire un chaînage avant. Le chaînage arrière, lui, c'est un fonctionnement plus intellectuel, au sens où, partant d'une idée que l'on a, ou d'un soupçon que l'on a, sur ce qu'est l'état du problème, ce qu'est la solution du problème, on va essayer de prouver cette intuition que l'on a en allant vérifier que les conditions sont bien vérifiées. Donc si on n'a pas trop de données sur un problème, on va plutôt tendance à avoir un raisonnement en marche arrière en essayant de faire vraiment fonctionner son intuition pour vérifier ensuite les hypothèses qu'on a pu mettre en œuvre.
Bon, c'est une question perfide.
Ah ben, n'hésitez pas, je suis là pour ça, de toute façon.
Bon, je voudrais vous demander si vous pensez que l'homme, tel que les sciences biologiques nous en offrent une définition, ou tel que Voltaire le définit, c'est-à-dire une poule à deux pieds sans plumes, est un système, comme vous dites, capable de traiter l'ensemble de la réalité. Oui. Sachant que la réalité est effectivement la réalité pour lui. Mm-hmm. et que, bon, j'enchaîne, je fais un saut un petit peu, que quand Alan Turing écrivait son célèbre article « Les machines pensent-elles ?» hein, sur le problème de la décidabilité. On sait bien que ce qui est décidabilité pour l'homme n'est pas décidabilité pour un autre système.
Oui, oui, ça.
Donc je vous ai trouvé, si vous voulez, un petit peu anthropologiquement correct. Mm-hmm. Et même,
même plus que
et
ça.
Même chrétien.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Mais je pense à un compliment, donc c'est vraiment très bien, je vous remercie. Bon, moi je fonctionne de façon relative, si vous voulez. Les systèmes que l'on essaie de mettre en œuvre sont des systèmes qui, au mieux, pour l'instant, pourraient faire, ce serait déjà pas mal, ce serait même extrêmement bien, des systèmes qui sont capables de faire ce que fait un être humain dans un certain domaine. Donc peut-être que quand nous aurons progressé pendant un certain temps, des années, des décennies, nous aurons des systèmes qui seront des poules à pattes, mais qui auront au moins cette capacité de poules à pattes. C'est le fait que l'on réduise un homme à une poule à pattes, ben, ça ne me dérange pas. Simplement, je vois ce que fait cette poule à pattes et je me dis que si on peut l'aider déjà à faire un certain nombre de choses, c'est pas mal. Donc la deuxième partie de votre question concerne le fait que je suis anthropologiquement correct. C'est pas complètement vrai, parce que les systèmes stochastiques ne sont pas du tout anthropologiquement corrects. Absolument pas. Je dirais même que c'est certainement pas comme ça qu'on fonctionne. Or, actuellement, si vous prenez le domaine de la reconnaissance de la parole, c'est précisément la solution la moins anthropologique qui marche. Et c'est gênant, d'ailleurs. Ça embête beaucoup un certain nombre de chercheurs de constater que ce n'est pas en se tournant vers les linguistes, vers les psycholinguistes, vers les phonéticiens, que l'on va faire un système qui va reconnaître la parole, c'est simplement en modélisant mathématiquement la variabilité du phénomène. Malheureusement, l'approche est limitée. On ne pourra pas faire des systèmes capables de comprendre au sens où Turing le voudrait, hein, pour qu'une machine soit intelligente. On ne pourra pas le faire avec cette approche-là. Donc il faudra revenir par quelque chose d'anthropologique. Alors votre question me permet de dire une chose, qui est que l'intelligence artificielle est vraiment un carrefour de disciplines. L'informatique intervient naturellement. Je dirais presque que c'est nécessaire, puisqu'il faut une machine pour implanter un système. Mais la logique mathématique intervient beaucoup, comme vous avez pu le voir, les statistiques aussi, énormément. Et un domaine qui est connexe, mais bien séparé, est le domaine des sciences cognitives. Les sciences cognitives s'intéressent aussi à l'intelligence et à la modélisation de l'être humain, non pas pour faire des systèmes, mais pour comprendre l'être humain. Et rien n'empêche d'être encore une fois, je suis désolé madame, d'être encore une fois centré sur l'homme et de regarder, de demander aux collègues de sciences cognitives, au fait, comment fonctionne l'être humain dans ce cas-là, quels sont les modèles que vous nous proposez pour faire telle et telle tâche. Non pas pour faire la même chose, mais éventuellement pour s'en inspirer. Vous avez vu ce que les ingénieurs ont fait de la modélisation du neurone. Hein. On est très loin d'un cerveau, et néanmoins, l'inspiration du départ, qui était ce neurone de McCulloch et Pitts, permet de faire des systèmes qui ont des comportements tout à fait intéressants.
Monsieur ? Oui, donc vous avez dit que les applications actuelles de l'intelligence artificielle étaient limitées.
Oui.
J'imagine effectivement que c'est lié à des problèmes techniques, je dirais. Donc, est-ce que ça veut dire que ça coûte cher de développer des systèmes à base d'intelligence artificielle? Et est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a malgré tout des domaines dans lesquels l'industrie informatique prospère dans le domaine de l'intelligence artificielle?
D'accord, merci. Merci pour votre question, parce qu'elle me permet de préciser un point, qui est que ce n'est pas à cause de limitations techniques que l'intelligence artificielle n'est pas plus évoluée. L'informatique actuelle nous propose une puissance de calcul qui est suffisante pour déjà pas mal d'applications. Il est certain que pour des systèmes très évolués, il faudra des machines encore plus puissantes. Mais dans ce cas-là, il suffit d'attendre, hein, puisque l'évolution est telle encore pour les années à venir que on peut tabler sur une évolution de puissance très importante. La clé du problème n'est pas là. Elle est que nous n'avons pas assez de connaissances sur les mécanismes. Il nous manque des algorithmes, si vous voulez, il nous manque les méthodes, les modèles pour nous permettre de faire de la meilleure reconnaissance de la parole, de la meilleure prise de décision. Donc on n'est pas du tout limité par la technique. Deuxième volet de votre question, qui est très intéressante aussi, qui est est-ce que l'industrie utilise les résultats de la recherche et est-ce qu'elle produit des systèmes d'intelligence artificielle? La réponse est oui, dans de nombreux domaines. J'ai terminé là l'exposé sur les aspects de reconnaissance de la parole. Dans de nombreux pays, notamment en France, il y a des sociétés qui fondent une bonne partie de leur activité sur la reconnaissance de la parole. Il existe une véritable activité économique autour de ce domaine, et cette activité ne fera que croître avec l'évolution de la thématique et l'évolution de la téléphonie, le mariage entre le téléphone, la télévision et l'ordinateur. La voix prendra de plus en plus d'importance comme médium d'interaction avec ces machines. La langue naturelle écrite également prend une importance de plus en plus grande avec le développement des réseaux. Le domaine de l'imagerie également. Et plus généralement, les systèmes à base de moteurs d'inférence qui utilisent des bases de connaissances sont largement répandus dans de nombreux domaines industriels ou tertiaires. Un développement ou une diffusion plus grande de tels systèmes n'est pas lié à des freins technologiques ou économiques, est vraiment lié à des aspects de recherche fondamentale, de manque de modèles fondamentaux dans les différents domaines.
Oui, je voudrais vous demander également, on voit de temps en temps dans les médias des reportages sur des robots jouant en équipe au football. Oui. Je voudrais savoir de quel modèle relève cette robotique.
Oui.
Et comment se construit une espèce de stratégie de groupe entre des éléments différents.
Oui, alors ces modèles relèvent typiquement de ce que j'ai appelé des systèmes multi-agents. Ce sont des systèmes dans lesquels chaque agent pris séparément a une certaine intelligence. Donc on n'est pas dans le cas des araignées ou des réseaux neuronaux. Hein. On a des agents qui sont quand même assez cognitifs, donc qui ont eux-mêmes un comportement qui représente une certaine intelligence. Mais globalement, l'intelligence naît de la confrontation ou de la coopération entre ces agents. C'est-à-dire que à côté des agents qui ont un comportement personnel, vous appliquez une stratégie ou une tactique, ça dépend à quel niveau vous vous placez, de résolution. De la même façon que vous parlez de robots joueurs de football, notamment dans des laboratoires de l'Université de Paris 6, on a des équipes qui travaillent sur ce sujet. Dans ce domaine, on est, encore une fois, je suis désolé madame, on est à nouveau anthropomorphique, c'est-à-dire que si vous regardez comment fonctionne une équipe de football, chaque joueur est pris indépendamment intelligent, enfin, une certaine mesure, et, enfin, je veux dire, une certaine mesure, je veux dire qu'il n'est pas nécessaire d'être surdoué pour jouer au football, mais il faut être intelligent. Et à côté de ça, l'entraîneur a défini des stratégies, c'est-à-dire qu'il a défini quel genre de relations entre les agents peuvent se produire lorsque l'on est dans tel état de cas de figure. Les robots joueurs de football appliquent également de telles stratégies. On va mettre un avant très rapide tout seul, et puis il va attendre qu'arrive une balle, ou au contraire, on va se replier pour bétonner, pour ne pas encaisser un nouveau but. Ce genre de stratégies sont mises en œuvre, en plus de l'intelligence partielle de chacun des agents.
On va prendre encore deux questions, madame.
Merci. Quelles sont à l'heure actuelle les limites de la traduction automatique à l'écrit et à l'oral?
Merci, madame Cadou, pour cette question qui prouve que vous connaissez le domaine. Eh bien, elles sont fortes, ces limites. La traduction automatique de la langue écrite est un domaine typique qui prouve que dans les années 50-60, il y avait une telle euphorie que l'on avait complètement sous-évalué les problèmes. Vous trouvez des publications de 1950 et quelques dans lesquelles on vous dit que le problème de la traduction automatique d'une langue dans une autre sera résolu avant la fin de la décennie, c'est-à-dire dans les années 60. Bien sûr, en l'an 2000, ce n'est toujours pas résolu. Parce que pour traduire d'une langue dans une autre, il faut un certain degré de compréhension. Ce n'est pas seulement un problème lexical et syntaxique, c'est également un problème sémantique, voire pragmatique. Ça veut dire que dans des domaines sémantiques limités, la traduction marche bien. Par exemple, au Canada, les bulletins météorologiques sont traduits systématiquement et sans intervention humaine de l'anglais en français. Des notices d'appareils sont traduites aussi directement, mais ça vous êtes rendu compte. Mais néanmoins, c'est compréhensible. Personne ne s'est encore électrocuté avec son four micro-ondes, et pourtant, c'était traduit du japonais. Et encore une fois, il se trouve qu'actuellement, il y a une forte activité dans le domaine de la traduction, non plus à base de modèles linguistiques, mais on retrouve nos amis modèles stochastiques, là, à nouveau avec des modèles fondés sur la statistique. C'est-à-dire des modèles qui ne sont pas du tout anthropomorphiques, mais qui sont simplement des modèles qui ont appris à partir d'un grand nombre d'exemples. Bon, ça, c'était pour le problème de l'écrit. Je pense qu'on va encore faire des progrès dans le domaine de la traduction. On n'est pas prêt de traduire Baudelaire ou Verlaine, mais est-ce que ça a le moins d'intérêt? J'en suis pas sûr. Mais on arrivera certainement à traduire des termes, des textes techniques, voire des textes littéraires non, sans trop de difficultés. Un autre domaine, comme vous l'avez, c'était le deuxième volet de votre question, un autre domaine a pris un essor récemment avec l'évolution de la technologie et l'évolution de nos connaissances, c'est le domaine de la traduction de la parole. Ce sont les Japonais, le domaine est assez connexe du domaine de la traduction de l'écrit, sauf qu'il se greffe en plus là-dessus le fait qu'on ne sait pas reconnaître la parole à 100%. Donc il faut traduire un phénomène dont on n'est pas sûr à 100%. Vous avez un texte à traduire, vous êtes sûr que le texte il est juste. Est-ce que dans le cas de la reconnaissance de la parole, ce n'est pas le cas? Ce sont les Japonais qui ont le premier lancé un projet qui a paru un peu fou à l'époque, une dizaine d'années, un peu plus, mais qui n'est pas fou du tout, qui consiste à faire un téléphone à traduction automatique. C'est-à-dire que vous décrochez votre téléphone et vous appelez un correspondant au Japon, vous parlez en français et il vous entend en japonais. Autrement. Donc, reconnaissance automatique de la parole, traduction, synthèse automatique de la parole. Ça paraît futuriste, je peux vous dire que ça existera. Ça existe déjà dans des conditions extrêmement restreintes, de vocabulaire, de domaine sémantique. Ça existera à une plus grande échelle et certainement dans votre téléphone portable dans un certain nombre d'années. Et je suis absolument certain que ça viendra comme un produit grand public. Vous pourrez téléphoner et définir dans quelle langue vous voulez que votre interlocuteur vous entende. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas non plus pour demain, mais c'est pour dans un horizon visible.
On va prendre une dernière question, monsieur.
Oui, je voudrais revenir sur le problème des agents coopératifs. Est-ce qu'il est possible que lorsqu'une solution doit être construite petit à petit, un agent décide par lui-même d'avoir la volonté délibérée de détruire une partie de la solution pour que les autres... ensuite, avec son aide de nouveau, créer une solution optimale?
Oui. Alors là, c'est une très bonne question. Et j'avais évoqué en fait ce problème en disant que les agents, dans un système multi-agent, les agents construisent collectivement une solution par coopération. Bon, ça c'est le cas sans doute le plus simple à mettre en œuvre, ou par concurrence. Et votre cas, c'est cela. C'est-à-dire que, en fait, on a une coopération qui, on a une interaction, dans laquelle les agents entrent en concurrence. C'est-à-dire un agent peut effectivement venir, peut-être pas détruire, mais en tout cas remettre en question un élément de solution donné par un autre agent, de façon à bien exploiter ce qu'il sait. Donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas vraiment une destruction de la solution qui est faite, mais c'est une remise en cause de ce qu'un agent a déduit par un autre, qui est faite par un autre agent. Et le système que je vous ai évoqué sur l'interprétation d'images, que je n'ai pas eu le temps de détailler, fonctionne de cette façon-là. Vous avez des agents qui sont des agents d'interprétation de certains aspects de l'image. Vous avez d'autres agents qui sont capables de remettre en cause cette interprétation en disant « Je ne pense pas que ceci soit une route ou un arbre. Ma connaissance me permet de dire que c'est plutôt ceci ou cela. »
Bien. Bah, écoutez, Jean-Paul Hatton, merci beaucoup.
Merci.